Bonjour à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin.
Ça va, va bien, vous ne serez pas embêté?
Non, on n'embêtera plus personne, votre femme, ah monsieur bah, Piche, vous savez, c'est ce que je dis toujours dans ce décédé ce matin.
D'accord.
Très triste.
D'accord.
C'est bien de le prendre comme
bien
ça,
sûr,
vous
il
savez.
Faut du courage. Ça va, elle va bien, vous ne serez pas embêté?
À cette époque, le nom des écoles philosophiques venait non de celui de leurs maîtres, mais du lieu où ils enseignaient. Zénon donnait des cours sous une colonnade de l'Agora, partie du bâtiment qu'on appelait portique, stoa. La concurrence fut rude pour ses successeurs. Les curieux avides de sagesse avaient le choix entre le jardin d'Épicure, le lycée d'Aristote et des péripatéticiens, et l'académie de Platon. Cette semaine, c'est le portique que nous avons choisi. Restons stoïques jusqu'au bout. L'hésitation entre le stoïcisme hellénistique et le stoïcisme impérial divise l'équipe des Nouveaux Chemins, qui se compose de Lucie Tardy, Marianne Chassor, Antoine Ravon et Colomba Grossi, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Thibaut Germez à la prise de son et Géraldine Mosna-Savoie, que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces deux minutes papillon. Bonjour chère Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à tous. Et bien une autre manière d'entrer dans la pensée d'Ernst Bloch, c'est possible avec ses entretiens philosophiques du rêve à l'utopie paru chez Hermann.
Rendez-vous à 10h51. Après la philosophie systématique des anciens stoïciens, Zénon, Cléante et Chrysippe, en compagnie de Frédéric Ildefonse hier, avant Souleymane Bachirdiane, qui sera en direct demain pour une émission spéciale dont je ne préfère rien vous dire en avance pour vous laisser la surprise, et Christelle Vieillard, qui terminera la semaine avec les pensées pour moi-même, lui-même, soi-même, de Marc Aurèle, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Gourina, directeur de recherche au CNRS et directeur du centre Léon Robin, qui vient vous proposer sa lecture des entretiens et du manuel d'Épictète. Bonjour à vous Jean-Baptiste Gourina.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Dans les choses, il y en a qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous jugement, impulsion, désir, aversion, en un mot, tous nos actes. Ne dépendent pas de nous corps, possession, réputation, postes importants, en un mot, tout ce qui n'est pas un de nos actes. Ce qui dépend de nous est naturellement libre, ne connaît ni obstacle, ni entrave. Ce qui ne dépend pas de nous est faible, servile, facilement contrarié et nous est étranger. Rappelle-toi donc que si jamais tu considères comme libre ce qui est naturellement servile et comme tien ce qui t'est étranger, tu seras entravé, tu pleureras, tu seras tourmenté, tu accuseras dieux et hommes. Mais si c'est seulement ce qui est à toi que tu penses être à toi, et si tu considères comme étranger ce qui t'est effectivement étranger, nul ne te contraindra jamais. Nul ne te fera obstacle, tu n'accuseras personne, tu ne t'en prendras à personne. Tu ne feras rien contre ton gré, nul ne te fera de tort, tu n'auras pas d'ennemi, car aucun tort ne pourra t'affecter. Si c'est effectivement d'aussi grand bien que tu veux obtenir, rappelle-toi qu'il ne faut pas s'y consacrer en ménageant ta peine, mais renoncer entièrement à certaines choses et en différer d'autres momentanément. Si en revanche, tu veux ces satisfactions-là, mais aussi exercer le pouvoir et être riche, si cela se trouve, tu n'atteindras même pas ces deux derniers objectifs, parce que tu auras voulu aussi le reste. Et de toute façon, tu es certain de ne pas obtenir ces biens-là qui sont les seuls, grâce auxquels se produisent liberté et bonheur. Donc, dès qu'une représentation pénible se forme, prends soin de dire aussitôt « Tu es une représentation et pas du tout ce que tu représentes ». Ensuite, juge-la d'après ces règles dont tu disposes et surtout d'après cette première règle. Est-ce qu'elle se rapporte à des choses qui dépendent de nous ou à des choses qui ne dépendent pas de nous? Et si c'est à des choses qui ne dépendent pas de nous, aie sous la main la réponse. Ce n'est rien pour moi.
Jean-Baptiste Gorina, on peut lire le manuel d'Épictète, dont on vient d'entendre un extrait, le tout début, hein, comme une sorte de guide d'apprentissage à l'usage des futurs philosophes. Et pourtant, la première phrase, la plus décisive, dessine un programme qui est extrêmement compliqué. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous, ça paraît évident. Et pourtant, c'est déjà le fruit d'un apprentissage que de le réaliser.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire sur cette distinction, c'est que souvent on la présente comme la distinction fondamentale du stoïcisme, mais qu'en fait, elle n'apparaît clairement que chez Épictète. Et il y a déjà une distinction dans l'ancien stoïcisme dont vous avez parlé hier, entre le destin d'un côté et les capacités de l'homme, l'autonomie de l'homme, la responsabilité humaine, mais c'est plutôt un problème pour les anciens stoïciens, tandis que pour Épictète, tel qu'on le voit justement par ce début du manuel d'Épictète, c'est plutôt le point fondamental et le point d'ancrage de sa philosophie. Et donc ça consiste à faire le départ entre la distinction, entre effectivement ce qui est vraiment dépend en notre pouvoir, ce qui vraiment dépend de nous, qui en fait sont, alors il dit nos actes, mais il faut comprendre qu'en réalité ce ne sont pas à proprement parler nos actes, ce sont plutôt en réalité il y a d'autres textes où il dit ce sont les actes de notre âme. Et même à l'intérieur de ça, il faut faire une distinction justement entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, qui est la représentation. C'est-à-dire que la représentation, elle arrive, elle s'impose de l'extérieur parce que c'est un événement extérieur et une impression, comme ça a été expliqué hier par Frédéric Hildefonse, qui vient d'un objet extérieur. Et nous, notre seul pouvoir, c'est notre réaction vis-à-vis de cette représentation, le jugement que nous avons sur elle et les conséquences que nous en tirons en termes de désir et en termes d'action. Et par conséquent, donc ça, c'est ce qu'il appelle vraiment, c'est pour lui ce qui dépend vraiment de nous. Et donc, il y a par ailleurs tout le reste qui ne dépend pas de nous, tous les événements de la vie, notre situation sociale, la richesse et tout ce genre de choses qui étaient que les anciens stoïciens appelaient des indifférents. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là aussi, il y a une innovation d'Épictète, en réalité, par rapport à l'ancien stoïcisme, puisque les stoïciens font une distinction très forte entre le bien, le mal et ce qu'ils appellent les indifférents. Et le bien et le mal, en réalité, ça se limite en gros à la vertu et au vice. Et les indifférents, c'est tout le reste. Et donc, notamment, c'est déjà les richesses, la maladie, la santé. Mais ils disent quand même qu'à l'intérieur de tout ça, il y a ce qu'ils appellent des préférables. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Et ce qui se passe avec Épictète, c'est que en partant de cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, cette distinction entre ce qui est préférable et ce qu'ils appellent rejetable, donc, est gommée. Beaucoup gommé. Alors il y a des textes où il reconnaît que les indifférents et les préférables existent, mais il dit voilà, ça c'est le dogme que tout le monde connaît. Bon alors après il faut dépasser ça et il faut essayer d'appliquer ces distinctions.
Mais alors comment entendre cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous? Est-ce une méthode pour conduire à la philosophie, à la sagesse à laquelle on est censé aboutir à la fin du manuel, ou est-ce qu'il y a vraiment une distinction, une démarcation ontologique entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous?
C'est une démarcation ontologique au départ, effectivement, et c'est une démarcation finalement par rapport à plutôt anthropologique en réalité, parce que c'est qu'est-ce qui est sous le pouvoir de l'homme et qu'est-ce qui n'est pas en son pouvoir, c'est-à-dire que ça n'est pas exactement une distinction vraiment physique, même si ça repose évidemment sur les capacités physiques de l'homme, mais c'est plutôt un point de vue strictement anthropologique, et ça lui sert de point de départ structurant pour sa version du sa version du stoïcisme en réalité. Et donc c'est, alors après, évidemment, ça sert de filtre et de méthode, c'est-à-dire qu'il dit, une fois qu'on a ça bien en tête, et c'est une distinction effectivement extrêmement simple, on l'applique à tout ce qui arrive, et on se dit, alors, sur cette chose, il faut que je me demande si ça dépend de moi ou si ça dépend pas de moi.
Alors, prenons un cas particulier, on l'applique à tout ce qui arrive, facile à dire, mais oui. Difficile à faire, écoutez. Oui.
Wow. You've taken good care of your body. Such a waste. You know, I never understood all these elaborate tortures. It's the simplest thing to cause more pain than a man can possibly endure. And of course, it's not only the immediate agony, but the knowledge that if you do not yield soon enough, there will be little left to identify you as a man.
Ça me gratte un peu. En dessous. Vous voulez bien?
Sur la droite! Sur la droite! Sur la droite!
Vous êtes un vrai comique, Monsieur Bond.
Ah, oui. 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 Maintenant, le monde entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes mort.
Tu pourras être invincible si tu ne t'engages jamais dans un combat qu'il ne serait pas en ton pouvoir de remporter. Quand tu vois quelqu'un que l'on honore plus que toi, qui a beaucoup de pouvoir ou qui est honoré d'une autre façon, veille à ne pas le juger heureux, subjugué par la représentation. Rappelle-toi que ce n'est pas celui qui insulte ou celui qui frappe qui offense, mais que c'est la conviction que l'on a que ses actes sont offensants. Donc lorsque quelqu'un t'a provoqué, sache que c'est ton propre jugement qui t'a provoqué. Donc efforce-toi de ne pas te laisser subjuguer par ta représentation, car une fois que tu auras obtenu un temps de réflexion, il te sera plus facile de te dominer toi-même. Alors Jean-Baptiste Gourina, quand on est dans la situation de James Bond dans Casino Royale face aux chiffres qui, à l'aide d'une corde dotée d'un nœud au bout, fouette l'entrejambe de James Bond et donc le fait hurler de douleur, est-il possible, et ça semble être le cas parce que celui-ci le prend avec finalement beaucoup d'humour et ne doute pas de sa supériorité, est-il possible d'appliquer le précepte stoïcien, en tout cas d'Épictète, qui consiste à dire, eh bien, là je n'ai pas le choix, je vais souffrir, donc acceptons la douleur et essayons de me détacher de la représentation que je peux avoir de cette douleur.
Oui, alors je ne sais pas si c'est aussi élaboré que ça dans la pensée de James Bond.
Bah, avouez que ça fonctionne plutôt
mais
bien.
Ça fonctionne plutôt bien. Et en fait, il y avait une anecdote concernant Épictète. Alors, on ne sait pas si c'est une anecdote fabriquée ou non, mais il avait commencé sa vie comme esclave. Et donc, on disait que un jour, son maître, justement, le met à la torture, lui en serre la jambe et la serre. Et Épictète lui dit « Je crois que tu vas me casser la jambe ». Et effectivement, au bout d'un moment, à force de torturer Épictète, la jambe d'Épictète est cassée et il lui répond simplement « Tu vois, je te l'avais dit que tu allais me casser la jambe ». Mais il ne cède pas à son maître, il ne supplie pas, il ne crie pas. Et donc c'était, alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est peut-être inventé. Ça permettait d'expliquer de toute façon le fait qu'Épictète boitait, ce qui était un fait bien connu. Mais en tout cas, on voit très bien justement dans cet exemple, et dans tout exemple de personnes soumises à la torture, comme celui de James Bond dans l'extrait que vous avez passé, que l'idée, c'est effectivement de dire que la douleur, effectivement, est simplement une réaction à une réaction psychologique ou une réaction psychique à quelque chose qui nous arrive. Alors, c'est à replacer dans le cadre, effectivement, d'une théorie stoïcienne qui est est parfois résumé par douleur, tu n'es qu'un mot, c'est-à-dire que tu n'es qu'une idée ou une que je mets sur quelque chose qui arrive, qui m'arrive, mais qui m'affecte et qui m'affecte uniquement parce que je le considère que c'est un mal d'être que
voilà. Mais c'est deux choses différentes. De ne pas ressentir la douleur, de ne pas la considérer comme un mal.
C'est ça, parce que effectivement, ce qui se passe, c'est que la douleur, elle est de toute façon ressentie. Mais l'idée, c'est de ne pas en souffrir en refusant de considérer que c'est un mal, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. Et d'ailleurs, dans la scène que vous avez passée de James Bond, en plus, effectivement, le personnage est juste soumis à la souffrance et il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que il ne doit pas, par exemple, livrer un secret et on ne le torture manifestement plutôt pour le plaisir de le torturer et donc en réalité ce qu'il fait ne change rien et donc il décide simplement là de prendre une attitude de déni et de provoquer son bourreau. Et effectivement, là, c'est quelque chose qui repose sur une idée que qu'en réalité, il y a bien une souffrance, mais qu'elle ne doit pas m'atteindre. Et c'était une idée. Alors, il y a eu aussi, au XXe siècle, il y a eu un personnage assez connu qui s'appelait James Stockdale, qui expliquait que, qui était un ancien officier de l'armée de l'air américaine, et qui, à un moment dans sa carrière, veut devenir officier d'état-major, et on lui dit, bon, très bien, mais là, il faut retourner à l'université, et il faut suivre un certain nombre de cours. Et il fallait qu'il suive notamment un cours de philosophie morale, et on lui dit, ah, vous allez lire Épictète, c'est très bien pour les militaires. Et alors, il se convainc qu'effectivement, il n'y a qu'une chose qui ne dépend de nous, c'est notre conviction sur les choses et notre réaction sur les choses. Et après, il part au Vietnam et son avion est abattu. Il s'est retrouvé pendant 7 ans prisonnier du Viet Cong et il dit qu'il a vraiment appliqué, qu'il a compris là vraiment ce que voulait dire Épictète, puisque en fait il n'était prisonnier, il ne pouvait rien faire sinon subir la torture, subir les humiliations et il ne pouvait pas s'évader ni rien. Et donc il a vu qu'effectivement la seule chose qui lui restait, c'était ses réactions psychiques.
Et alors, voilà, vous parlez de réactions psychiques, ça veut dire introduire un décalage entre la façon dont je vais pouvoir ressentir un impact extérieur dans et travers la douleur et la façon dont je vais interpréter cette douleur. Puisque le texte d'Épictète disait bien, ne te laisse pas subjuguer par la représentation.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur. La douleur, c'est pareil. Vous avez non seulement une impression des sens qui arrive de l'extérieur, on voit quelque chose, on ressent quelque chose, mais en plus, ça fait mal quand même. Mmh. C'est pas quelque chose que les stoïciens vont nier, que la douleur fait mal. Simplement, c'est quelque chose auquel, en réalité, dans un certain nombre de circonstances, et a fortiori surtout dans les circonstances antiques, où on n'a aucun médicament contre la douleur, ni quoi que ce soit, parce qu'il faut aussi replacer, évidemment, ça dans ce contexte-là. C'est-à-dire que vous n'avez rien, absolument rien, pour soulager la douleur. Et donc, quand on n'a rien pour soulager la douleur, comment est-ce qu'on la supporte ? Et c'est pour ça que cet exemple de Bond enchaîné, qui ne peut évidemment pas prendre un médicament antidouleur, ou de cet aviateur prisonnier du Viet Cong, qui ne peut absolument pas, qui n'a rien, qui n'a d'autre défense qu'en fait que ses défenses psychiques, et de dire, bon, ben, moi je reste là, moi je reste intègre. Et il dit que d'ailleurs, il disait d'ailleurs qu'à un moment, il avait même pensé à l'issue extrême des stoïciens, c'est-à-dire la mort. Et mais qu'heureusement, il a fini par être libéré juste avant qu'il n'en arrive à cette extrémité.
Reste à savoir si les ressources psychiques dont vous parlez ne peuvent pas, dans certains cas, se retourner contre la liberté de l'individu lui-même. Autre exemple, cette fois-ci non plus dans le cadre de la douleur et du ressenti extérieur, enfin causé par l'extérieur au sein de son propre corps, mais qui met en scène l'obstacle que peuvent représenter à certains moments les représentations. Écoutez.
Serrez à droite. À droite. À droite. Serrez à droite. À droite, à droite, à droite.
Serrez à droite. Pardon, je suis désolé.
Non, ça va, tout va bien, mais quand je tourne le volant, il faut me laisser faire, hein. Vous allez lutter, là, il faut pas lutter, hein.
Je suis désolé, pardon.
Pardon. Ça fait combien de temps exactement que j'avais pas conduit?
Je sais pas, ça doit faire 10 ans. Mais même à l'époque, c'était comme ça, j'étais paralysée. Je pensais que j'aurais grandi un peu, que je serais plus à l'aise. Mais pas du tout, c'est comme avant. Je suis paralysée, je suis terrifiée.
Pas de quoi être terrifiée.
Mais si, j'ai tout le temps l'impression que je vais mourir ou que je vais tuer des gens. C'est un fantasme.
Oui, je comprends bien. Un fantasme, mais bon, justement, c'est un fantasme. On ne peut pas se laisser dominer comme ça tout le temps. Il faut se maîtriser, on n'est pas des enfants. On doit être capable de se maîtriser.
Ah oui. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Des séances d'acupuncture, peut-être parallèlement, ça peut me faire du bien. Ça peut me détendre un peu.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas reprocher à Épictète, enfin lui objecter, d'avoir une conception de la vie psychique en termes modernes qui serait quasiment transparente à elle-même? Il suffirait d'avoir conscience que les représentations ne sont que des représentations ou des fantasmes, pour reprendre le terme employé par Agnès Jaoui dans l'extrait qu'on a entendu, hein, au bout du compte, c'était le nom du film, pour pouvoir finalement être libre. L'homme, est-ce que le meilleur obstacle à la liberté de l'homme qui peut exercer à l'égard de lui-même n'est pas sa propre personnalité, son propre psychisme, et le fait qu'il se ressente lui-même comme un obstacle?
Alors, oui, effectivement, c'est-à-dire que ça n'est pas... Alors, c'est un... On a dit au départ que c'était un donné quasi-ontologique, en tout cas une donnée anthropologique, mais malgré tout, ça, en tant que clé pour le comportement humain, ça n'est pas quelque chose de donné, c'est-à-dire qu'il faut arriver à l'appliquer et il faut une éducation pour ça. Et donc effectivement, ça n'est pas quelque chose qui pour laquelle il suffit de le savoir pour l'appliquer. Alors il y avait d'ailleurs dès l'Antiquité des critiques assez fortes contre le stoïcisme parce que c'était ce qu'on appelle maintenant un intellectualisme, c'est-à-dire avec l'idée que au fond il suffit de savoir pour agir. Et par exemple il considérait que la vertu était une science et en grande partie il fallait avoir la connaissance des objets, par exemple la connaissance du bien et du mal, et que c'était une condition nécessaire. Et il s'opposait à beaucoup de philosophes, notamment à Aristote, qui pensent que la vertu s'acquiert par l'habitude et que la connaissance ne sert à rien. Mais l'idée des stoïciens, ça n'est pas tant de dire qu'il ne faut pas d'habitude, parce que effectivement, il faut aussi ça, il faut aussi un exercice, il faut aussi s'habituer aux choses, il faut aussi s'habituer par de petits exercices. Par exemple, il dit qu'il faut s'habituer, Épictète dit qu'il faut s'habituer sur de petites choses. Il faut s'habituer à être stoïque, par exemple, sur le bris d'un pot, d'un pot de
d'un vase, bothèse,
d'un vase, voilà. Oui. Donc sur des petites choses comme ça, sans valeur, s'habituer à se dire ça n'est rien, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, pour ensuite pouvoir avoir la même réaction vis-à-vis de choses plus fondamentales et plus importantes. Et donc qu'il y a tout un apprentissage, et ça veut dire très nettement qu'effectivement, la connaissance intellectuelle de ces distinctions, la connaissance intellectuelle de principes de base du stoïcisme ne suffit pas du tout, mais qu'il faut au contraire s'y accoutumer et qu'il faut faire toute une série d'exercices. Et alors il y avait des exercices qui étaient effectivement des exercices qu'on appelle maintenant des exercices spirituels, des exercices de l'âme, mais il y avait aussi des exercices du corps qui étaient pratiqués d'ailleurs par un certain nombre d'écoles. On sait par exemple que les cyniques qui ont beaucoup inspiré les stoïciens, Diogène, s'entraînait par exemple à la résistance au froid et qu'il allait embrasser des statues tout nus en hiver pour s'habituer au contact du froid.
Mais est-ce que ça veut dire
donc,
que...
Toutes ces petites choses qui sont des accoutumances physiques, ce qui veut dire que la théorie ne suffit pas du tout.
Mais est-elle pour autant exclue? Est-ce que la morale est uniquement du côté de la pratique
et non,
d'une
pas
bonne
du tout.
Attitude voilà, c'est ça.
C'est ça, c'est-à-dire que la différence avec une position comme celle d'Aristote, bon, évidemment...
Qui sépare, là, pour le coup, pratique et
voilà,
théorique.
Voilà, pour le coup, pratique et théorique, c'est que toute vertu est à la fois théorique et pratique. Et que, donc, vous avez besoin à la fois de connaître, mais vous avez besoin aussi d'une habitude pratique. Et d'une pratique de la vertu et d'une pratique en commençant par de petites choses, une pratique des actes qui vont vous conduire à, effectivement, appliquer finalement tous ces grands principes du stoïcisme.
Et donc les principes du stoïcisme, les principes moraux, sont hérités du stoïcisme ancien ou est-ce qu'il y a un décalage là aussi ?
Il y a un petit... Non, les principes moraux en gros sont les mêmes sur la vertu, par exemple, ou ces choses-là, mais le fait est que quand même Épictète c'est beaucoup moins technique, c'est-à-dire que tout ce qui concerne, par exemple, les différentes vertus, la connaissance théorique des différentes vertus, on n'a pas l'impression que ça le préoccupe beaucoup. Et c'est, il met beaucoup plus l'accent sur des choses plus simples, et donc toujours sur cette distinction fondamentale, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, qui n'est pas du tout une manière de procéder de l'ancien stoïcisme, encore une fois.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'il sacrifie la logique et la physique au profit de la morale, parce qu'avoir une lecture uniquement morale d'Épictète serait réducteur.
Tout à fait. Alors, ceci dit, le problème est aussi la façon dont ce que nous appelons les textes d'Épictète nous ont été transmis.
Oui, c'est vrai, dites-nous.
Puisqu'en réalité, ce ne sont pas des textes, ce sont les notes de cours prises par son élève Arien et qui apparemment devait pratiquer la sténographie, qui se pratiquait assez dans l'Antiquité, et qui ensuite, notamment, a composé le manuel à partir de ça. Les entretiens, c'est assez fidèle, mais le manuel, c'est très composé, et c'est composé par Arien. Et alors, ces notes de cours, ce qu'on sait, c'est que en réalité, il y avait deux parties au cours d'Épictète, une partie très technique, avec des exposés techniques ou des commentaires de textes, notamment faits par un élève. Et ensuite, il y a une reprise, en quelque sorte, par Épictète, qui fait quelque chose de beaucoup plus, une réflexion beaucoup plus libre, et en se concentrant sur des points moraux particuliers, par exemple. Et c'est ça que nous avons conservé. Donc, en réalité, on sait, parce qu'il le dit, qu'il y avait, par exemple, un enseignement technique de la logique chez Épictète, mais on n'en a rien gardé, et il explique aussi très bien que c'est la chose qu'il faut maîtriser en dernier. C'est-à-dire qu'en réalité, il semble qu'à l'époque d'Épictète, il y avait un goût immodéré pour la logique et qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient, par exemple, chez les philosophes pour apprendre la logique. Pourquoi ? Parce que ça permet, notamment, c'est un instrument de pouvoir, c'est-à-dire que ça permet de maîtriser le langage, ça permet de maîtriser l'argumentation, et donc c'est un instrument de pouvoir. Et donc un jeune homme riche qui vient chez un philosophe, une des choses qu'il veut apprendre, c'est à maîtriser le langage pour obtenir le pouvoir. Et donc Épictète dit « Oui, mais bon, ça, c'est la dernière chose qu'il faut maîtriser quand on a vraiment progressé dans tous les autres domaines de la philosophie. La première chose, c'est maîtriser ses désirs et maîtriser ses impulsions. Et c'est par là qu'il faut commencer. »
Il y a comme un programme à suivre. On entendait dans l'extrait film qu'on a entendu, Jean-Pierre Bacri disait à Agnès Jaoui « Ne fais pas l'enfant ». Et en fait, cette phrase est très juste parce que Épictète lui-même dit que ce qui distingue l'homme et puis ensuite le philosophe de l'enfant, c'est cet apprentissage qu'il enseigne. Qui fonctionne par étapes.
Donc il faut que ce soit par étapes. Et alors on voit aussi dans les entretiens, d'ailleurs, de temps en temps, il y a un voyageur qui s'arrête chez Épictète, parce que Épictète était très célèbre. C'était une espèce de gourou en réalité. Donc on venait le voir. On venait. En plus, il était dans un port qui vivait dans un port qui était le port d'embarquement de la Grèce pour Rome. Et donc tout le monde passait par là. C'était, je pense que c'était stratégique de sa part de s'être installé là, mais enfin on n'est pas sûr. En tout cas, ça faisait partie. C'était une ville où il n'y avait pas beaucoup de distractions, mais aller chez Épictète, ça faisait partie des choses recommandées sans doute par les guides de voyage. Et donc on allait chez Épictète, on allait assister, et puis alors on lui demandait des conseils, c'est-à-dire que quelqu'un qui allait à Rome, qui devait avoir une entrevue avec l'empereur ou qui devait aller à un procès, disait bon alors je vais aller chez Épictète, il va me donner un conseil, comment me comporter dans mon procès, qu'est-ce que je dois dire à l'empereur, etc. Alors généralement il était assez mal reçu, c'est-à-dire qu'Épictète lui disait mais je vais pas t'apprendre ce qu'il faut faire en deux jours ou en une heure, c'est un apprentissage, etc. etc.
Alors écoutons-le, voilà. Écoutons un des conseils qu'il donne. On avait commencé avec un extrait du manuel d'Épictète, cette fois-ci c'est un extrait des entretiens, le premier chapitre du livre 2, interprété par Jean-Louis Jacopin.
La mort ou la souffrance n'ont rien de redoutable. Ce qui est à redouter, c'est la crainte de la souffrance ou de la mort. Alors que nous devrions réserver notre confiance à la mort et notre prudence à la crainte de la mort, nous faisons tout le contraire. Nous fuyons devant la mort. Quant à l'opinion que nous nous faisons d'elle, nous nous y montrons plein de légèreté, mou et indifférent. Socrate avait raison de dire que ce sont là des épouvantails. Comme les enfants, à cause de leur manque d'expérience, trouvent les masques effrayants et terribles, face aux événements, nous réagissons de la même façon et en vertu des mêmes raisons. Et qu'est-ce qu'un enfant, sinon ignorance et manque d'instruction? Car là où il a la connaissance, il ne nous le cède en rien. Qu'est-ce que la mort? Un épouvantail. Retourne-le, regarde-le, ça ne mord pas. Il faut que ta petite carcasse et ton petit souffle de vie se séparent maintenant ou plus tard, tout comme ils existaient l'un sans l'autre avant ta naissance. Pourquoi? Pour que s'accomplisse la rotation périodique de l'univers. Le monde a besoin des choses qui existent aujourd'hui, de celles qui doivent être et de celles qui ont été. Qu'est-ce que la souffrance? Un épouvantail. Retourne-le pour voir. Ta misérable chair est traitée rudement, puis à nouveau avec douceur. Si elle ne t'est pas utile, la porte est ouverte. Si elle te sert, supporte ce qui arrive. Quand en toutes circonstances la porte est ouverte, il ne peut nous arriver aucun mal. Quels sont les fruits de cette façon de penser? Ce qu'on peut imaginer de plus beau et de mieux accordé à un homme jouissant d'une véritable éducation. La sérénité, l'absence de crainte et la liberté.
So I'm walking through the desert, and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've requested, and I do not want what I have not got. I have learned so many things from my mother. Oh, see how happy she made me. I will take this road so much farther, though I know not where it takes me. I have water for my journey. I have bread and I've got my wine. No longer will I be hungry for the bread of life is mine. So I'm walking through this desert, and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've ever requested, and I do not want what I have not got.
I do not want what I haven't got. Je ne désire pas ce que je n'ai pas. C'est Betty Lavette qui le chante en bonne stoïcienne qu'elle est. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h34 et c'est le deuxième temps de notre série consacrée aux stoïciens, précisément après les stoïciens anciens hier. Aujourd'hui, c'est d'Épictète que nous parlons. En votre compagnie, Jean-Baptiste Gourina, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre Léon Robin, spécialiste du stoïcisme auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages, notamment sur Épictète. On a entendu un extrait des entretiens donc d'Épictète. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il compare la mort à un épouvantail qu'il suffirait de retourner pour dompter. Mais et d'ailleurs, il lui dit lui-même dans le texte, en faisant référence à Socrate, ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Platon lui-même essaye de montrer que finalement la mort, que la crainte de la mort résulte de l'ignorance que nous avons de ce qu'est la mort. Alors, quelle est la valeur ajoutée d'Épictète ici dans sa réflexion sur notre peur de la mort?
Ah, la valeur ajoutée.
Il ne se contente pas de répéter ce qu'a dit Platon avant.
Non. Il se contente pas de. Ben, c'est-à-dire que si vous. Alors, l'idée sur la mort, évidemment, est un petit peu la même. Ceci dit, il y avait quand même. On voit des textes. Il y avait une certaine exagération chez certains platoniciens que par ailleurs Épictète critique un peu à cause de passages du Phédon, du fait que on va rejoindre Dieu quand on meurt, l'idée que certains se précipitaient un peu trop, du coup avaient tendance un peu à se précipiter pour mourir, pour se débarrasser de leur corps.
Parce que les stoïciens autorisent le suicide.
Les stoïciens autorisent le suicide, mais... comme acte de liberté, mais ils ne l'encouragent pas comme acte de piété, c'est-à-dire comme idée que le corps c'est ça, le corps ça nous entrave, et il faut s'en débarrasser pour aller rejoindre Dieu parce qu'on ne sera plus qu'une âme. D'autant que les stoïciens, semble-t-il, ça n'est pas toujours très clair, mais ne croient pas à l'éternité de l'âme. Alors, il y a une idée chez certains stoïciens que l'âme, et notamment l'âme des sages, survit à la séparation du corps. C'est un peu ce qu'on entend dans le texte d'Épictète, où il dit « ton âme existait avant, ton corps existait avant, donc il s'agit maintenant de les séparer ». Mais généralement, en réalité, l'idée c'est que alors l'âme, de toute façon, n'est pas incorporelle chez les stoïciens, contrairement à ce qui se passe chez les platoniciens, où c'est une entité incorporelle. Là, il l'identifie en réalité au souffle. Et ils disent, notamment, il y avait un argument qui disait, voilà, quand on meurt, on rend l'âme et on rend un dernier souffle. Et c'est bien donc, quand on n'a plus de souffle, on n'a plus de vie. Et c'est donc bien la preuve que le principe de la vie, c'est ce souffle. Alors, ça nous paraît complètement, évidemment, de nos jours, complètement extravagant. Il y avait des raisons dans la physiologie antique qui faisaient que ça pouvait avoir un peu plus de sens. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, comme c'est quelque chose de purement matériel, ou de purement corporel, même si c'est très évanescent, au bout d'un moment, ça se dissipe. C'est-à-dire que ça commence par quitter le corps, et puis après, finalement, ça se dissipe. Alors, l'âme des sages, comme elle est plus forte, plus concentrée, elle dure plus longtemps, mais finalement, dans ce qu'ils appellent la conflagration, le moment où l'univers s'enflamme et devient complètement de feu, et avant de finalement recommencer à l'identique, c'est ce que Nietzsche appellera l'éternel retour. À ce moment-là, évidemment, même l'âme du sage disparaît dans le grand feu. S'il y a une allusion un petit peu à ça, un petit peu voilée dans le texte qui a été lu. Donc il y a une idée, si vous voulez, par rapport à la mort, qui est un petit peu la même, mais une conception de la mort qui est tellement différente, et une conception du rapport de l'âme et du corps qui est tellement différente, ça change beaucoup les choses, et ça change beaucoup la perspective, et notamment, généralement, justement, ça ne valorise pas ce qui peut arriver chez certains platoniciens, la mort par rapport à la vie, parce que la mort, c'est l'éternité de l'âme, c'est l'âme seule séparée du corps, et ça, évidemment, ça n'est pas du tout valorisé chez les stoïciens. En revanche, revanche, alors, le suicide va être autorisé dans un certain nombre de circonstances. Et en réalité, ils disent, en s'appuyant à nouveau sur Socrate, ils disent qu'il faut qu'il y ait un signe du dieu. Et par exemple, le signe du dieu qui a été envoyé à Socrate, c'est sa condamnation à mort. Et donc il doit accepter sa mort parce que il a été condamné à mort par la cité, injustement certainement, mais en tout cas c'est le signe du dieu qu'il a fait son temps. Et il y a d'autres choses qui sont la dégradation physique, la maladie qui indique que le moment est venu. Et puis, il y a des cas extrêmes qui aussi s'identifient à la pression des circonstances extérieures. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Stockdale, justement, ce prisonnier américain, qui il dit qu'à un moment, il a vraiment pensé à l'issue stoïcienne, c'est-à-dire à la mort, au suicide, parce que pensait qu'il n'avait plus d'autre issue. Et puis, heureusement pour lui, les choses se sont tournées autrement, c'est-à-dire qu'il a été libéré à ce moment-là. Mais il y a vraiment des circonstances. Alors, c'était connu, par exemple, que Caton d'Utique, qui était un des adversaires de César dans la guerre civile, donc au moment où on passe de la République à bientôt l'Empire, qui était un stoïcien, très connu comme stoïcien, sauf que c'est un point intéressant, c'est quelqu'un qui n'a jamais enseigné et qui n'a jamais écrit une ligne de philosophie. Mais il vivait selon les principes du stoïcisme. Et à un moment, il accepte de se suicider. Alors ça rejoint évidemment des pratiques romaines, par ailleurs, où il y avait quand même une valorisation du suicide chez les ou de la mort volontaire chez les Romains, ce qui n'était pas le cas chez les Grecs.
Ça veut dire que la liberté est supérieure à la vie.
Ça veut dire que la liberté est supérieure à la vie. Et un des propos qu'on prête à Caton,
si l'âme n'est pas immortelle, c'est qu'il n'y a pas de vie après la mort
voilà.
du corps. Donc le suicide n'est pas une façon d'atteindre notre état, une autre sphère.
Non. Un des propos qu'on prête à Caton, c'est après que la disparition de la République et la disparition justement de la liberté politique, je n'ai plus rien à faire dans ce monde-là et je n'ai pas de raison d'y rester. Et donc j'accepte ma mort volontaire, après une défaite militaire en plus évidemment, mais j'accepte ma mort volontaire. Et il y aura plusieurs cas de suicide de stoïciens romains assez connus. Alors il y a Sénèque, c'est un peu particulier parce que c'est sur l'ordre de Néron en réalité, mais il y a toute une mise en scène de sa mort et souvent. Dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est le cas de Caton, ça semble être le cas de Sénèque. On prend le Phédon de Platon, quand même, justement, sur... Alors, comment il se concilie ça avec le fait que dans le Phédon de Platon, il est question de l'immortalité de l'âme, alors qu'il ne croit pas à l'immortalité de l'âme? On n'en sait rien, mais en tout cas, de toute façon, c'est le plus beau texte antique philosophique sur la mort. Et donc, on prend ça, on relit ça, et puis, après avoir relu le Phédon, se donne la mort.
Les dieux n'ont mis en notre pouvoir que ce qu'il y a de meilleur et de plus excellent dans le monde, le bon usage des idées. Le reste, ils ne l'ont pas mis en notre pouvoir. Est-ce donc qu'ils ne l'ont pas voulu? Moi, je crois que s'ils l'avaient pu, ils nous auraient également fait mettre du reste. Mais ils ne le pouvaient absolument pas. Car vivant sur la terre et enchaînés à un tel corps et à de tels compagnons, comment aurions-nous pu ne pas être entravés pour ce reste par les objets du dehors? Que dit Zeus? Épictète, si je l'avais pu, j'aurais encore fait libre et indépendant ton petit corps et ta petite fortune. Mais ne l'oublie pas, ce corps n'est pas à toi. Ce n'est que de la boue artistement arrangée. Comme je n'ai pu la franchir, je t'ai donné une partie de nous-mêmes, la faculté de te porter vers les choses ou de les repousser, de les désirer ou de les éviter. En un mot, de savoir user des idées. Si tu la cultives, si tu vois en elle seule tout ce qui est à toi, jamais tu ne seras empêché ni entravé, jamais tu ne pleureras, jamais tu n'accuseras ni ne flatteras personne.
Thank you.
Le fait que le suicide puisse être autorisé chez les stoïciens témoigne d'une grande liberté non seulement de l'homme à l'égard de lui-même, mais aussi à l'égard des dieux. Et dans ce texte, Jean-Baptiste Gouriner, un extrait des Entretiens, là c'est le début du premier livre des Entretiens, eh bien on entend Épictète qui fait parler Zeus lui-même. Zeus qui, et c'est là où c'est très surprenant, surtout pour nous, lecteurs contemporains, après des siècles de christianisme, Zeus qui va reconnaître sa propre limitation. Il n'a pas pu faire autrement que de mettre Épictète dans un corps, que de lui laisser ce corps-là. En revanche, il a eu la générosité de lui donner ce qui fait la partie divine en lui, à savoir le bon usage des idées. Là, on est vraiment loin du platonisme.
Oui, oui. Alors, le texte est à double tranchant, quand même, justement. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, cette contrainte qui s'exerce sur Zeus, mais il y a, en fait, aussi, quand même, l'idée que Zeus nous a donné quelque chose par lequel nous sommes presque les égaux de son pouvoir. D'ailleurs, c'est ce que, justement, c'est une des choses que Pascal, dans l'entretien avec Monsieur de Sacy, reprochera, de son point de vue de chrétien, à Épictète, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'admiration pour le stoïcisme, mais il trouve le stoïcisme trop orgueilleux, et notamment dans le fait que finalement ça a presque l'air de donner un pouvoir égal aux hommes par rapport aux dieux, dans la mesure où ils jouissent d'une espèce de liberté identique, mais qui leur a quand même été accordé par Zeus, comme c'est dit dans le texte d'Épictète, mais ça, Pascal ne le souligne pas du tout. Et d'un autre côté, il y a effectivement ces contraintes qui s'exercent sur Dieu, parce que, donc ça a été un petit peu dit hier, mais en gros, Dieu, c'est l'âme du monde. Et donc c'est une, puisque le monde est considéré comme une espèce de super organisme vivant qui comprend, qui comme tous les organismes vivants, a une âme et est dirigé à une partie directrice de l'âme, qui dirige l'ensemble de l'univers. Et donc c'est Dieu, évidemment, qui à l'intérieur de lui, en quelque sorte, engendre tous les êtres vivants. Mais il les engendre, comme il est lui-même un vivant, il les engendre avec un certain nombre de contraintes qui lui sont imposées, parce que ça n'est pas exactement un dieu créateur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une création, vraiment une création ex nihilo, mais c'est un dieu qui procède au fond un petit peu comme un père qui engendre ses enfants, d'ailleurs parfois il y a des comparaisons, mais qui garde évidemment une forte autorité sur eux. Mais en même temps, les enfants, même s'ils ont une autonomie vis-à-vis du... Pardon, même s'ils sont dépendants du père, justement, gagnent une certaine autonomie. Et il y a un passage très remarquable d'Épictète où il dit « Zeus ne peut pas contraindre ma faculté de choix. »
Oui, mais c'est à la fin.
La proairesis, voilà.
« Homme, que dis-tu, m'enchaînez-moi, tu enchaîneras ma cuisse, mais ma faculté de juger et de vouloir, Zeus lui-même ne peut en triompher. »
Voilà, Zeus ne peut en triompher, et Zeus ne peut rien faire là-dessus. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très frappant chez Épictète, même, je pense, très frappant par rapport à l'ancien stoïcisme, étant donné que justement le rapport entre le destin, l'autonomie de l'homme est parfois assez problématique. Et là, on a l'impression d'une revendication très forte d'autonomie, ce qui fait que vous pouvez avoir des versions à partir de ce sur quoi vous mettez l'accent, des versions très autonomistes, si je puis dire, du stoïcisme, ou des versions au contraire qui insistent beaucoup sur la liberté, sur l'absence de liberté, le destin, la soumission, etc. Et suivant les textes que vous prenez, suivant l'accent que vous mettez, il y a plus ou moins de liberté. Et c'est chez les Épictètes qu'il y a beaucoup plus, justement, d'autonomie et de liberté. Quand vous parlerez de Marc Aurèle dans 2 jours, je pense qu'on vous dira que c'est quand même beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus il y a beaucoup plus de contraintes chez Marc Aurèle. Mais il y a ces accents-là chez Épictète qui sont très surprenants. Oui.
Conduis-moi, ô Zeus, et toi aussi, destin, là où vous avez un jour décidé que j'irai. Je vous suivrai avec la meilleure volonté du monde. Si je ne le veux pas, c'est que je serai devenu mauvais, mais je ne vous en suivrai pas moins. Celui qui a la noblesse de se plier à la nécessité est un sage parmi nous, et il est dans le secret des dieux. Ma foi, Criton, Si c'est ce qui fait plaisir aux dieux, qu'il en soit ainsi. Anitos et Méletos peuvent me tuer, non me nuire.
In a way, I really don't know much at all. And if you say that I'm simple, you're on the ball. On the ball to say that I'm going nowhere. But I'm going nowhere with love. They all say that I'm not impressive at best. That's okay, I've got nobody to impress. My impression is they'd rather be elsewhere. Oh, I'm staying nowhere with love. Well, it's better to be happy in a cardboard shack than to be alone in a castle. All you get for your money is the heart attack. I'd just as soon alleviate the hassle.
Il vaut mieux être heureux dans un abri en carton qu'être seul dans un château, c'est ce que chante Harry Connick Jr. Épictète à sa façon, lui, écrit « Il est préférable de mourir de faim sans souffrance que de vivre dans l'abondance, taraudé par l'angoisse ». Un grand merci à vous, Jean-Baptiste Gorina, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs aux nombreux ouvrages que vous avez consacrés aux stoïciens. Alors, ils ne sont pas tous encore disponibles, notamment « Les stoïciens et l'âme » qui était paru en 96 au PUF. Alors, j'espère qu'il sera bientôt à nouveau disponible, car c'est une très bonne façon de s'initier au stoïcisme. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Ernst Bloch, Geist der Utopie, 1918. Wir leben und wissen nicht wozu. Wir sterben und wissen nicht wohin.
L'esprit de l'utopie, c'est le titre d'une des œuvres les plus importantes d'Ernst Bloch. C'est aussi ce qui caractérise le mieux sûrement toute son œuvre. Pourtant, à voir les livres du philosophe allemand, marxiste proche de l'école de Francfort, proche de penseurs tels que Lukács ou Adorno, à voir son principe espérance en 3 volumes, sa thèse sur le théologien du 15e et 16e siècle Thomas Münzer, rien ne semble plus éloigné que cet esprit d'utopie ou qu'un parfum de conte de fées. Eh bien, c'est pourtant ce qu'on trouve dans ses entretiens philosophiques parus chez Hermann, très justement intitulé « Du rêve à l'utopie ». Car loin d'un penseur rude et austère, ce qu'on découvre à travers ses 10 échanges, eh bien c'est un poète, un penseur au plus proche de nous, de l'homme ordinaire et de ses rêves parfois triviaux, un musicien aussi dont l'engagement politique prend d'abord racine dans une sensibilité esthétique. Quand il raconte par exemple sa divergence avec Lukács, tout tient ainsi d'abord à l'art. Alors que ce dernier campe encore sur le néoclassicisme, Bloch discerne au contraire dans l'expressionnisme, je cite, la révolte de sa génération, l'espoir d'un monde nouveau à construire. La musique aussi jouera, comme il le confie, le même rôle, celui d'un déclencheur de sa propre voix, celui aussi d'une analogie avec sa propre philosophie. Car la musique, dit-il, est la plus puissante des utopies. Car elle n'a rien à voir avec les objets visibles, mais qu'elle est un écouté de quelque chose qui approche. Voilà donc l'esprit de l'utopie de Bloch, ce qu'il appelle un rêve diurne, ni introuvable, ni lamentable, mais bien au contraire impossible, tourné vers l'avenir. Une puissance à concrétiser, une évanescence bien réelle, ce qui n'est pas encore et que Bloch parvient pourtant à saisir avant que sa réalisation ne la détruise pour toujours.
Passionnant, et j'en profite pour envoyer un petit texte de Bloch qui était paru tout récemment aux éditions Alia, dont vous aviez parlé ici, Géraldine, l'angoisse de l'ingénieur.
Très joli texte, et donc ces entretiens philosophiques du rêve à l'utopie d'Ernst Bloch, donc, et c'est Sherman. «
Merci Géraldine, c'est noté. Merci à tous. On se retrouve demain pour une pause dans notre série d'émissions consacrée au stoïcisme. Ça, ce sera la fin, sera jeudi prochain avec Christelle Vieillard qui viendra vous parler de Marc Aurèle. Mais demain, ce sera une journée exceptionnelle que vous propose France Culture en partenariat avec la Nuit des Idées qui se tient au Quai d'Orsay en public demain, donc le mercredi 27 janvier à partir de 18h. Nous recevrons toute la journée des intellectuels venus d'ailleurs qui vous parleront de leur domaine de compétences et nous aurons l'immense plaisir de recevoir en ce qui nous concerne Souleymane Bachirdiane, le philosophe Souleymane Bachirdiane qui enseigne la philosophie à la Columbia University. D'ici là, pour réécouter cette émission, ainsi que toutes celles, toutes les précédentes d'ailleurs, qui ont eu lieu au cours de l'année passée, rendez-vous sur le tout nouveau site de France Culture, magnifique site de France Culture qui fonctionne à merveille. Vous pourrez non seulement réécouter les émissions, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.